Alors, nous allons rester encore dans ce thème de savoir qui je suis, l'identité. Parce qu'on a parlé de ça, c'est tellement un sujet qui nous concerne tous. Parce qu'on est tous quelque part. Et si vous n'avez pas peut-être assisté au... Allez sur le site, ils doivent être sur le site, vous pouvez les écouter. Et je pense que c'est une bonne série sur notre identité, sur notre valeur, sur l'importance de comprendre ce que nous sommes en Jésus-Christ, qui nous sommes en Jésus-Christ, qui je suis véritablement. Parce que c'est le diable, on en a parlé un petit peu, c'est quelque chose qui va constamment essayer d'étouffer, essayer de tromper. C'est le père du mensonge, essayer d'attaquer, essayer de critiquer. Et il y a des éléments pour ça, parce qu'on est toujours pécheur, on est dans un monde de péché, on est faible souvent. Et donc il a des arguments pour essayer de nous dire mais non, tu es toujours ton péché, tu es toujours ta faiblesse, c'est toujours tu pourras jamais servir le Seigneur, tu pourras jamais être utile, tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur, et c'est ce qu'il essaye de faire. Et il essaye de nous décourager, il essaye de nous rendre las, fatigués, et quelque part arrêter de croire Dieu. Et j'aimerais vous dire que nous sommes appelés à croire Dieu. Alors, quand on parle d'identité, vous noterez que je pense qu'on pourrait tous s'identifier à ça, mais chacun d'entre nous, si on entend quelqu'un ou un commentaire négatif vis-à-vis de nous, c'est dur, c'est blessant, c'est offensant, c'est une remise en question, c'est difficile, d'accord ? Alors, j'aimerais vous dire que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on n'est pas appelé à plaire aux gens. Ce n'est pas aux gens qu'on plaît. C'est à notre Seigneur. Donc, il faut apprendre à grandir et à accepter que voilà, des gens ne sont peut-être pas contents avec nous. Alors, néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Hein. Mais si on marche avec le Seigneur, qu'il y a des gens qui ne sont pas contents avec nous, qui nous critiquent, qui ne sont pas d'accord sur... quand on est, par exemple, un prédicateur, un pasteur, il y en a, oh, ben, j'aime pas sa façon de prêcher à lui, ou j'aime pas sa façon de s'habiller à lui, ou j'aime pas sa façon dont sa cravate est tordue, ou j'aime pas... Enfin, on peut toujours trouver quelque chose, où j'aime pas son humour, ou j'aime pas ceci, ou j'aime pas cela, ou j'aime pas, c'est toujours en train... j'aime pas quand il prêche certains sujets, ça me convainc, ça me dérange, ça me... Bon... Donc, il faut savoir qui on est en Christ. D'accord ? Si on dépend de ce que les gens disent de nous, on va avoir... Et c'est pour ça que pour les jeunes gens, les adolescents et tout ça, ils sont très sensibles à ça. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement blessés aussi. Et aujourd'hui, il y a avec la technologie, le diable utilise ces réseaux sociaux sur lesquels les jeunes se font du mal, mais profondément. Et il y a des jeunes gens qui ne se relèvent pas. Il y a des jeunes gens qui se suicident. Parce que y a des... Alors après, ça part d'éléments peut-être certains qui sont vrais ou totalement faux. Et puis c'est des calomnies. Et puis c'est blessant. Et puis c'est tragique. Et donc voilà, on doit être... on doit devenir des adultes. Hein. On ne doit pas rester des adolescents. On doit devenir des adultes. On doit... Alors, on ne va pas sauter de joie si quelqu'un nous critique, ou peut-être qu'il y a peut-être des choses aussi à en remettre en question, à savoir se remettre en question, quelquefois. Pourquoi pas ? Mais en même temps, à savoir qu'on est enfant de Dieu. D'accord ? Et que je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je marche avec Dieu, je marche devant Dieu, je fais confiance à Dieu, je le laisse me corriger, me rediriger, et notamment la parole de Dieu. C'est elle qui va nous diriger. C'est elle qui va nous corriger, c'est devant elle, c'est pas devant les hommes, mais devant la parole de Dieu, devant le Christ, qu'on accepte d'être repris, d'être convaincu, d'accord ? Pas condamné, le diable condamne, la parole de Dieu nous convainc, d'accord ? Et il n'y a pas d'accusation de la part de Jésus-Christ. Parce que, en fait, dans notre position, dans notre nouvelle identité, nous sommes parfaits. D'accord ? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, et il faut le... Non, mais ce n'est pas la vérité, ça. C'est la vérité. La réalité, c'est que, oui, encore, on pêche. Mais la vérité, la Bible dit, au verset 4 d'Éphésiens chapitre 1, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Éphésiens 1, 4, en lui nous sommes saints et irréprochables. Et pourquoi ? La réalité, c'est que j'ai encore péché aujourd'hui, ou il y a 10 minutes avant de arriver au culte même. Je me suis énervé contre le chauffard devant moi, ou j'ai été le chauffard, peu importe. Comment je ne suis pas saint, et je ne suis pas saint, et je ne suis pas irréprochable. Ça, c'est notre expérience. Dans notre position, nous sommes saints et irréprochables. On est héritier, co-héritier avec Christ, on est un peu plus loin dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, on est assis dans les lieux célestes avec lui. Ça, c'est notre position. Et il faut bien comprendre quelle est notre position, quelle est notre nouvelle identité. On est enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 2, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'on le verra, nous serons comme lui. Donc, nous sommes déjà comme lui, en position. Dans la réalité, eh bien, il y a encore besoin que nos pieds soient lavés. D'accord ? On est dans un monde de poussière et de péché. Et donc, et le Seigneur, il est là pour ça, Jésus. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait ? La dernière chose qu'il fait avant de s'offrir à la croix, il lave les pieds de ses disciples. Hein, il explique à Pierre qu'il a besoin qu'on lui lave les pieds. Parce que oui, on a besoin de se confesser, on est encore pécheur. Et Jean, l'apôtre Jean le dit dans sa première épître, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. Hein, il fait Dieu menteur. On est tous, donc on a tous besoin. Mais dans notre position, nous sommes déjà acceptés dans le bien-aimé. Enfin, on a dit toute une liste, je ne vais pas revenir là-dessus. Et c'est tellement important de comprendre notre nouvelle identité, parce que c'est parce qu'on a compris cette nouvelle identité qu'on va pouvoir devenir effectif dans le royaume de Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu dans la chair. La chair ne peut pas servir Dieu. D'accord ? On sert Dieu quand on vit notre position, quand par la foi on accepte notre position et on confesse notre position et on vit selon notre position. Même s'il y a quelquefois besoin de se confesser, de se repentir, de se tourner vers le Seigneur et d'être restauré. OK ? Mais c'est capital de comprendre cette nouvelle identité et la vie par la foi, c'est de vivre et de tendre vers cette vie de ce que Dieu a fait. On n'y arrivera jamais parfaitement sur la terre, mais on tend vers ça. D'accord ? Et donc, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle n'est pas vaine. Pourquoi ? C'est l'apôtre Paul, en Corinthiens 15, qui dit ça, verset 10. Pourquoi ? Parce qu'elle lui a permis de travailler plus que tous. Pourquoi ? Parce que c'est dans le repos de l'œuvre accomplie, de la grâce de Dieu, du sang de Christ qui a effacé nos péchés, que nous commençons à vivre notre position et nous démontrons la puissance de l'Esprit, la puissance de la vie de résurrection. Ce n'est pas juste le petit Jean, ce n'est pas juste le petit Michel ou le grand Bruno, c'est Christ en nous qui commence à être manifesté. C'est ça, comprendre notre nouvelle identité. C'est que maintenant, j'ai un nouveau nom. Et on va parler de ça ce soir. De vivre dans cette nouvelle identité. Et c'est pour ça que c'est tellement attaqué par le malin. Parce que si on vit toujours dans notre vieille identité, dans notre échec ou dans nos succès, on peut s'enorgueillir d'avoir fait des choses pour Dieu. Les pharisiens qui disaient, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas... Jésus, je vous ai jamais connu. Pourquoi ? Parce que c'était pas la nouvelle création. Là. C'était l'ancienne création religieuse qui peut faire des grands sacrifices, apparemment, mais qui n'a pas la vie de Dieu, qui n'a pas la puissance de Dieu, qui n'a pas l'amour de Dieu, qui n'a pas le cœur de Dieu et qui n'a pas les fruits. Et donc, si le diable peut nous voler les fruits, la vocation que Dieu a sur notre vie, l'appel que Dieu a sur notre vie, il ne va pas s'en priver. Il ne peut pas voler notre salut, mais il peut nous voler les fruits que Dieu voudrait nous donner. Parce que on va être occupé à se défendre, on va être occupé à se valoriser, on va être occupé à sécuriser notre identité, on va être occupé à plaire aux gens, on va être occupé à faire comme les gens veulent qu'on fasse, au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et on perd du temps, on perd de l'énergie, et on se fait voler, dépouiller d'un fruit, deux fruits avec un S. Parce que notre identité, ça affecte évidemment notre image propre, comment on pense vis-à-vis de nous. Et en fait, le diable voudrait nous occuper à penser sur nous-mêmes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai bien fait? Voilà. Toujours, je suis allé à l'évangélisation. Ouais, mais j'aurais pas. Alors, des fois, on doit se remettre en question en disant oui, là, peut-être, j'ai laissé mes émotions, ou j'ai laissé ma rationalité, ou j'ai laissé le désir de vouloir avoir raison. Et c'est pas le cœur de Dieu que j'ai démontré. Donc, on se remet en question. Mais on peut pas toujours s'auto-analyser. S'auto-critiquer, se descendre en disant « mais t'es nul, ben, c'est plus la peine d'y aller, laisse tomber, tu ne sers à rien, tu n'as pas de valeur. » C'est ce que le diable aurait que faire. D'accord ? En fait, la clé de la vie, une des clés de la vie chrétienne, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est la définition de Pasteur Stevens, peut-être que vous l'avez déjà entendu de ma bouche, mais je vous le redis. Il dit « l'humilité, c'est de ne pas penser trop haut de nous-mêmes. » D'accord ? Moi, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, vous n'avez rien compris, je vais tout... Non, ça, je ne pense pas trop haut de moi-même, d'accord ? Je ne pense pas non plus trop bas de moi-même. Je suis le dernier, je suis le nul, je ne vaux rien, je n'ai aucune valeur. Ça, c'est la vérité. Hein. On est... Voilà. Enfin, c'est la vérité. En dehors de Christ, voilà, la chair, pas de valeur aux yeux. Sa destinée, c'est la mort, c'est la croix. Et en fait, l'humilité, c'est de ne plus penser à nous. Ni trop haut, ni trop bas, plus du tout. Mais pourquoi on ne pense plus du tout à nous ? C'est tellement libérateur. Si je suis conscient de moi-même, je ne me tiens pas derrière ce pupitre à vous enseigner la parole de Dieu. D'accord ? Si je suis conscient de moi-même, je ne vais pas dans la rue avec mon vélo, là, tout le monde me regarde passer, il dit, c'est qui ce fada avec son vélo ? D'accord ? Donc, si je suis conscient de moi-même, il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Je ne vais pas me lever, donner un témoignage, si je suis conscient de moi-même. Entrez. Bienvenue, Didier. Alors, on reste concentré. Donc, si on est conscient de nous-mêmes, et c'est ce que le diable essaye de faire, alors ça sera soit on sera très orgueilleux, on sera « moi, je suis super machin », ou soit on sera très... on va se dénigrer complètement. Mais si on arrête de penser à nous et qu'on commence à penser à Jésus, c'est ça. Ce que Jésus a fait, qui est Jésus, on regarde Jésus, on contemple Jésus, on contemple ce que nous sommes dans notre position. Et là, on peut rentrer dans des... On peut relever des défis. On peut dire, dans l'Église, il y a tel ministère, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce ministère-là. Ça serait bien qu'il y ait ce ministère-là. Il n'y a personne qui se lève, donc il ne le sera pas. Et pourquoi ce n'est pas toi qui te lèves ? Mais si tu es conscient de toi, je ne suis pas capable. D'accord ? Faire du ménage ? Ça, c'est pas pour moi. Ça. Moi, je suis. Oh, je prêche la parole, moi, j'évangélise. Moi, je... Vous comprenez ? Trop, ça, c'est trop bas pour moi. Ou ça, c'est trop haut pour moi. Et toujours conscient de soi. Donc, on a parlé de ça la dernière fois. Comment est-ce qu'on peut répondre à l'appel de Dieu ? À notre vocation, si on ne comprend pas notre nouvelle identité, si on ne grandit pas. Alors, on est en apprentissage, d'accord ? Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation, mais soyons en train de grandir dans notre apprentissage de ce que nous sommes, de ce que Christ a fait, de ce que nous lui ressemblons, de ce que l'œuvre est accomplie, de ce que nous ne sommes plus nos péchés, de ce que nous sommes une nouvelle création. Et c'est libérateur, libérateur de nous-mêmes. Et quand on est libéré de nous-mêmes, eh bien, on peut se mettre au service de Dieu. Et on n'est plus préoccupé de plaire aux gens. On n'est plus dans la crainte des hommes qui tend un piège, en Proverbe 29, 25. on est plus dans la recherche d'approbation, ça s'appelle la convoitise d'approbation. On vit dans la foi en Jésus-Christ. Et on commence à être obéissant à ce que Dieu nous demande. Et on ne dit plus « non, je ne peux pas », on dit « Seigneur, je te suis ». Pas toujours en vie. Et d'ailleurs, il a dit à Pierre, il a dit un jour, quand tu seras plus âgé, quelqu'un te liera les mains et te conduira où tu ne veux pas aller. Mais j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas de faire tout ce qu'on a envie de faire. La vie chrétienne, c'est de faire ce que Dieu veut que je fasse. Parce que là se trouve la vie, là se trouve la communion, là se trouve la vie de résurrection, là se trouvent les fruits qui vont, quelque part, m'encourager à suivre ce chemin qui, il faut le reconnaître, suivre Jésus, c'est renoncer à nous. C'est ça. Renoncer à nous-mêmes, à l'image qu'on projette de nous-mêmes, à l'image qu'on a. On n'est plus conscient de nous. On est tellement en sécurité dans notre nouvelle identité que nous ne sommes plus conscients de nous. Et j'aimerais... je vais changer un peu l'ordre de mon message, mais de ce que j'avais préparé, mais j'aimerais parler du problème de l'insécurité identitaire. Et pour ça, on va regarder un personnage dans l'Ancien Testament qui est symptomatique de ce problème d'identité. Peut-être certains savent de qui je veux parler. C'est un roi. Il s'appelle Saül, exactement. Donc on va regarder quelques versets dans le livre de 1 Samuel sur le roi Saül, qui ne savait pas qui il était en Dieu. Et c'est comme un cancer qui va le ronger et qui va le détruire. Donc c'est pour vous montrer l'extrémité de quand on devient conscient de nous et qu'on n'accepte pas par la foi de croire ce que Dieu a fait et ce que Dieu dit de nous et ce que Dieu nous a promis. Et de vivre dans une réalité qui est la réalité du malin, il y a une réalité, c'est vrai, il s'appuie souvent sur une réalité, mais qui n'est plus la vérité de Dieu. D'accord ? Donc il avait une mauvaise image propre de lui-même. Déjà, on voit ça dans 1 Samuel chapitre 9, verset 21, lorsque Samuel vient le rencontrer, alors qu'il était à la recherche des ânesses de son père, d'accord ? Et il lui dit qu'il a quelque chose de précieux qui lui est réservé. Et au verset 21, Saül répondit « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Mais moi, je ne suis rien. Je suis benjamite, déjà, c'est la plus petite tribu d'Israël. Et en plus, parmi toutes les familles de la tribu de Benjamin, moi, ma famille, c'est la plus petite des plus petites. Alors qu'est-ce que j'ai ? Moi, j'ai rien. Moi, être roi, je suis le dernier des candidats, d'accord ? Et j'aimerais vous dire que pour l'appel de Dieu, on est toujours le dernier des candidats. Je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je suis pas ceci. Mais c'est parce qu'on s'appuie sur nous. Mais pour répondre à l'appel de Dieu, c'est pas s'appuyer sur nous, c'est croire Dieu et c'est grandir en Dieu. Bien sûr, il va faire un travail dans nos vies, il va nous rendre capables de grandir, de progresser. Bien sûr que ça fait partie de la vie chrétienne. Et puis, lorsqu'il s'agit de loindre, comme le roi, donc il y a un deuxième rendez-vous où toute la nation est convoquée, et puis lorsqu'on le cherche, on ne le trouve pas. Mais il est passé où, Saül ? Pourtant, la Bible dit qu'il faisait une tête de plus que tout le monde. D'accord ? Et c'est la première fois que, pourtant, on connaît les histoires, mais c'est la première fois que je le remarque, et ça m'a interpellé. On le chercha, mais on ne le trouva point, au verset 21 du chapitre 10. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. C'est pas quelqu'un qui l'a trouvé, il est là-bas. C'est Dieu qui leur dit, il est là-bas. C'est même pas quelqu'un qui est allé, ah, moi, je l'ai vu, il est là-bas. Non, non, non. C'est Dieu. Ils ne savent pas où il est. Personne ne l'a trouvé. Et c'est Dieu qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui va t'élever. C'est Dieu qui va t'équiper. C'est Dieu. Et regarde pas à toi, regarde à Dieu. D'accord ? Et là, on voit déjà, quelque part, il a un problème d'identité, ce gars. Il a un problème d'image propre. Il fait une tête de plus que tout le monde, mais il est insécure. En tout cas, il a une insécurité identitaire. Alors, parce qu'insécure, c'est pas français. C'est traduit de l'anglais, mais en français, ça ne veut rien dire. Mais on comprend le sens. Désécurisé. Merci, madame le professeur. Il devient, donc, il va devenir roi. Et là, c'est un peu, il va tomber presque dans l'extrême. C'est qu'avant, il n'était rien. Le dernier de sa tribu, dernière famille. Il se cache pour pas... Hein, il a la trouille, il est... Voilà. Désécurisé. Et puis, quand il devient roi, qu'est-ce qu'il va faire, notre ami Saül ? Là, c'est comme si maintenant, ça y est, maintenant, je suis roi. Alors, au début, ça marche plutôt bien. Hein, il va prendre ça vraiment comme il faut. Il va avoir des victoires. Il va défier le peuple d'Israël en disant, attendez, il y a un peuple, il y a une ville qui demande de l'aide parce qu'ils sont assaillis par les Ammonites. Et là, tout Israël vit dans la crainte. D'accord ? Il n'y a personne pour conduire le peuple, donc personne ne se lève. Et là, il coupe un bœuf en 1000 morceaux, il envoie dans chaque tribu, il dit, si vous ne venez pas vous rassembler avec moi, c'est comme ça que vos animaux vont finir. Et là, d'un seul coup, bon, ça, c'est l'œuvre de Dieu qui a appelé un homme. Et c'est là aussi où, quand on marche dans ce que Dieu nous a donné, et dans l'identité de la nouvelle identité qu'il nous a donnée, c'est lui qui va faire qu'Israël aussi va se lever et va lui donner la sagesse d'interpeller le peuple et de communiquer avec le peuple. D'accord ? C'est Dieu qui conduit tout ça derrière. Et lui, ben, il voit ça et puis il dit, oh pétard, mais oh, finalement, je suis pas mal. Oh pétard, mais finalement, je suis le roi. D'accord ? Et c'est l'extrême. C'est soit on se dénigre, soit on explose dans une bulle, on se gargarise. Et quelque part, il va presque, il n'a pas la crainte de Dieu, mais celle des hommes. Et on va voir ça dans Samuel chapitre 13, verset 11. Où Samuel lui a donné un rendez-vous, mais Samuel tarde. Et le peuple s'est réuni à Gilgal et ils attendent que Samuel arrive pour faire un sacrifice et aller attaquer, faire la guerre. D'accord ? Alors, je pense qu'à cette époque-là, aujourd'hui, on vit dans une époque où le temps, c'est chaque minute, c'est chaque seconde. Tu m'as fait perdre une seconde, on a volé quelqu'un, on a dépouillé de quelque chose. Alors, je suis d'accord, on a besoin d'être ponctuel. La ponctualité, c'est de la politesse, de la correction, et c'est de vivre devant Dieu. Mais là, Samuel tarde, c'est les retards de Dieu. Il est toujours pour nous, il est toujours en retard, Dieu. Non, il est toujours à l'heure. C'est nous qui sommes toujours pressés. Et dans nos sociétés, à cette époque-là, c'est quand même le temps, c'était pas pareil. Bon. Samuel tarde, il devait arriver, au bout de 7 jours, il est toujours pas là. Enfin, il devait être là, il est toujours pas là. Le peuple commence à... son armée commence à partir, ils ont peur et tout ça. Donc il se fait violence, il le dit lui-même. Et il dit au verset, chapitre 11, verset 12, je me suis dit... on est au chapitre 13. 13, et il dit... au verset 12, je me suis fait violence... Et j'ai offert l'Holocauste. En fait, il va prendre le rôle du sacrificateur qui était réservé qu'à Samuel. Lui, il est roi, mais il n'est pas sacrificateur. Il n'y en a qu'un qui peut avoir les trois offices, prophète, sacrificateur et roi, c'est Jésus-Christ. Mais lui, il a usurpé quelque part. Et pourquoi il le fait ? Parce qu'il a eu peur. Parce qu'il s'est dit, au verset 12, le début du verset, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Il le reconnaît lui-même. Il s'est tourné vers Dieu parce que voilà, il est tellement rempli de lui, tellement conscient de lui. Tellement conscient de sa position, il faut tenir, il faut faire ceci, il faut faire cela, qu'il ne tourne même pas vers Dieu et qu'il va faire quelque chose d'insensé, il va désobéir à Dieu. Et au verset 11, il dit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait », c'est un homme qui marche par les émotions, qui marche par la vue, qui marche par les sentiments, qui marche par les raisonnements, qui ne marche pas par la foi. C'est la caractéristique de quelqu'un. La foi, c'est ce dont on a besoin pour marcher dans notre nouvelle identité. C'est de chercher l'Éternel, c'est de se confier en Dieu. Si on ne le cherche pas, si on marche par nos raisonnements, on n'est pas dans notre nouvelle, on ne vit pas dans notre nouvelle identité. On vit dans notre tempérament, dans nos qualités peut-être. Et on pense qu'on sert Dieu, alors qu'on vit simplement naturellement. Et en réalité, il oublie d'où il vient. C'est ça, on était très bas, puis maintenant il est très haut. Il a oublié d'où il vient. C'est ce que d'ailleurs Samuel lui dit un peu plus loin, au verset 17. Mais c'est dans le chapitre 15. Et il dit... Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi de sur tout Israël ? Tu étais petit à ce moment-là, d'accord ? Est-ce que Dieu ne t'a pas utilisé ? Et c'est comme lorsqu'on devient, lorsqu'on n'est pas dans notre nouvelle identité et lorsqu'on veut marcher dans notre vocation, on va être, si on ne vit pas dans la foi et dans la confiance que c'est Dieu qui nous a appelés, que c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous, à travers nous, avec ses moyens, par la foi, eh bien, on va essayer de le faire à sa place. Et on va prendre des initiatives pour se fortifier, pour s'encourager, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec la foi, et qui ne vont pas édifier le peuple de Dieu, et qui ne serviront pas dans la bataille spirituelle. Et on va se faire, on va être dans la désobéissance, tout simplement. Et c'est le cas ici de... Tu veux défendre ta place. Mais si Dieu m'appelle à ça, c'est lui qui le fait. C'est lui qui me défend, c'est lui qui est ma protection, c'est lui qui est ma forteresse. C'est pas à moi de défendre ma position. Vous comprenez ? Moi, j'ai à marcher avec Dieu. Peut-être qu'elle va être critiquée, peut-être qu'on va dire ceci, peut-être... Oui, mais ok, c'est Dieu qui m'a mis là, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui me tient. Quand j'étais petit, c'est lui qui m'a appelé, maintenant que je suis grand, ben, c'est lui qui me tient encore. C'est pas moi qui suis devenu fort en moi-même. Et les gens se trompent. Et les gens se fatiguent dans leur vocation et dans leur appel parce qu'ils pensent que c'est par leurs efforts qu'ils doivent tenir à la position que Dieu leur a donnée. Non, c'est par grâce. C'est pour ça que Paul le dit. J'ai travaillé bien plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et lui-même, et sa vision, hein, il parle du fait qu'il était le moindre des apôtres, vous rappelez ? 1 Corinthiens 15, 9, 10. Et après, en Philippiens 3, 8, je crois qu'il était le moindre des apôtres. C'est mieux quand j'ai le micro-cravate. Je suis le moindre de tous les saints, d'accord ? Et en 1 Timothée 1, 9, je crois, je suis le premier de tous les pécheurs. Donc le moindre des apôtres, le moindre des saints, et puis après le premier de tous les pécheurs. Donc, dans son identité naturelle, il sait bien qu'il est rien. Mais il est apôtre de Jésus-Christ. Et il va défendre son apostolat. D'accord ? Par la foi. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité qu'il veut défendre. Ce n'est pas simplement lui. C'est parce que si lui, quand on veut discréditer le message, on discrédite le messager. Donc, ne vous étonnez pas quand le messager soit attaqué, que celui qui est en autorité va toujours être critiqué. Hein ? Est-ce qu'on critique, je ne sais pas moi, quelqu'un qui n'a pas d'autorité ? Non, c'est le président qu'on critique. C'est toujours lui sa faute. C'est toujours celui qui a l'autorité, n'est-ce pas ? Donc quand Dieu nous place en autorité, dans notre appel, dans notre vocation, ça va être attaqué par le diable et par les gens. Il ne faut pas s'étonner de ça. Et nous, on ne doit pas être dans la défensive. Non, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a placé, c'est Dieu qui fait son œuvre en moi. Je suis pas conscient de moi, moi je marche avec Dieu, moi. D'accord ? Et c'est la vérité que je défends, je me tiens pour la vérité. D'accord ? Alors, donc, il a oublié d'où il venait, qu'il était petit. Et puis, ce qui va, une des caractéristiques, on en a parlé déjà un petit peu, mais au verset 24, en fait, il va encore désobéir. Samuel avait donné un ordre, il devait dévouer par interdit tout, et puis finalement, le peuple a gardé les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes. Et ils n'ont pas tué Agag qu'ils étaient censés tuer. D'accord ? Ils l'ont fait captif. Et là, il dit, j'ai fait tout ce que tu avais dit. Puis là, tout d'un coup, Samuel dit, mais c'est quoi ces brebis ? Ah oui, non, mais c'est le peuple, on va faire un sacrifice à l'Éternel. Non. Parce que quand ils faisaient un sacrifice à l'Éternel, ils en mangeaient aussi. Hein. Ils voulaient faire la fête. Ils voulaient en garder pour eux. D'accord ? Et au verset 24, il dit « Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. » Il le reconnaît. Pourquoi il n'a pas obéi ? Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. La crainte des hommes tend un piège. J'ai écouté le peuple. J'ai suivi. Et non, attends, on est appelé. Tu marches tiens, en communion avec Dieu. Tu marches selon ce que Dieu te dit. Tu n'es pas là pour faire plaisir à ta femme, à tes enfants. Tu marches ce que Dieu te demande. Tu n'es pas là pour faire plaisir à ton pasteur. Tu marches sur, et si tu marches sur ce que Dieu te demande et que le pasteur est spirituel, il va reconnaître que c'est de Dieu. Tu n'es pas là pour t'opposer non plus à lui. On est d'accord. Mais tu obéis à Dieu, premièrement. Pas aux hommes. À Dieu. Et c'est parce que tu obéis à Dieu que tu te soumets aux hommes. Dans le système d'autorité que Dieu a donné. D'accord ? Et là, il n'est pas soumis à Samuel. Il n'est pas soumis à l'autorité. Il est dans la crainte. Et tout ça, ça vient de quoi ? Il est désécurisé. Il ne sait pas qui il est. Il cherche à être quelqu'un. Parce que quand on ne sait pas qui on est, on cherche à être. Quand on n'a pas cette sécurité-là, eh bien, il faut la prouver, il faut la démontrer. Et c'est épuisant. Et c'est fatigant. Et donc, le résultat des courses, ben, c'est qu'il va perdre sa place de roi. Et d'ailleurs, il lui avait déjà dit, Samuel, que Dieu allait choisir un autre. Et là, Samuel, au verset 35, n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül au roi d'Israël. Voilà. Saül, c'était le choix du peuple. C'était le choix de la vue. C'était le choix de... Il avait une tête de plus. Il était fort, il était grand, il était ceci, il était cela. Et Dieu, lui, il a choisi un homme selon son cœur. Il s'appelle David. Un homme qui va... Et le verset clé de ce chapitre 15, c'est que l'Éternel trouve-t-il plus de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et nous, on est prêts à faire des tas de sacrifices qui vont servir, soi-disant Dieu, mais servir plutôt nos intérêts, d'accord, au lieu d'obéir à ce que simplement Dieu nous demande. Et on ne peut obéir à ce que Dieu nous demande que si on est sécurisé dans notre identité en Christ. Voilà. Parce que ça va nous mettre, l'obéissance à Dieu, ça va nous mettre dans ce test de la foi. Non, mais qui tu es pour... C'est ce qui va arriver avec David. Qui tu es, toi, là, tu vas venir là. C'est Goliath, il le voit arriver, là, au chapitre 17. C'est qui, ce Nimbo, là, qui m'envoie, là, ce gamin qui m'envoie pour... ce Nimbo qui m'envoie pour... c'est quoi, cette histoire ? Lui, c'est un homme de guerre, il mesure 4 fois sa taille. Non, pas 4 fois, peut-être 2 fois sa taille ou 2 fois et demi sa taille. C'est quoi, cette histoire ? C'est qui, ce gars ? Mais lui, il ne vient pas en son nom, il vient au nom de l'Éternel. Il ne vient pas avec sa force, il vient avec ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Et ce à quoi Dieu l'a appelé, il a déjà été oint roi par Samuel. D'accord ? Mais on reviendra sur David après. Donc, Saül va perdre la communion avec l'homme de Dieu. Il va perdre la couverture spirituelle. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il vit dans son insécurité. Et j'aime à vous dire que le début de la folie commence. C'est ce qui arrive au chapitre 16. L'Esprit en fait, de Dieu s'est retiré. Alors là, on est dans l'Ancien Testament, ça ne se passe pas dans le Nouveau Testament, mais le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament peut être éteint quand un croyant vit dans la désobéissance et dans le péché. D'accord ? Donc, il est sauvé, mais il est éteint. D'accord ? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, 14. Et là, c'est l'humour de Dieu. Qui c'est qu'il va envoyer ? Qui c'est qui va être choisi pour l'apaiser ? David. Je veux dire, il y en avait plein d'autres qui devaient chanter, mais c'est David. David qui sera son pire rival, qui va devenir son ennemi, qui va devenir le catalyseur de toute sa folie, de toute son insécurité. Il va se battre toute sa vie contre David, alors que David, à plusieurs reprises, va montrer qu'il n'avait rien contre lui. Mais c'était la folie. C'est ça, on devient fou après. Ce problème d'identité te rend fou, te rend malade. C'est l'objectif du diable, d'être centré sur nous et de devenir malade alors qu'on a déjà tout. On a déjà tout, nous, en Christ. D'accord ? Et finalement, verset 23, « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » Non seulement l'Esprit de Dieu était parti, mais il y avait carrément un mauvais esprit. C'est-à-dire que c'est ça. C'est qu'après, ça va être un esprit de crainte, de culpabilité, de regret, de dépression, de découragement, de colère, de rancune, d'amertume, de raisonnement. Et tout ça, ça tourne dans ta tête. Et ça devient comme un larcène qui tourne. C'est un bruit. Comment on dit ça ? Ça reviendra. Non, oui, peut-être un acouphène, mais c'est le bruit psychologique de ton âme. Et ça fait du bruit dans ta tête. Ça tourne. Et les gens, vous savez quoi ? Les gens sont malades de ça dans notre société aujourd'hui. Et nous, on est appelés à être libérés de cette maladie. Il est venu pour libérer les captifs de ces raisonnements, de ces calculs, de cette crainte, de cette insécurité. Et on a tout en Jésus-Christ. Vraiment tout en Jésus-Christ. Et David donc va devenir son rival, parce que en fait David, lui, il va venir tuer Goliath. Ça c'est au chapitre 17, et devenir après un des capitaines de l'armée de Saül. Et lors d'un retour de bataille, David réussit dans tout ce qu'il fait. Au verset 45, on va juste souligner ce verset du chapitre 17. Au verset 43, je vous disais tout à l'heure, le Philistin dit à David, suis-je un chien ? Qui je suis, moi ? Qui je suis ? Hein ? Toujours ce problème d'identité. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça, c'est comme ça que Goliath l'accueille, David, qui au départ, il voulait prendre Saül, voulait lui donner son armure, mais après, c'était tellement lourd et tellement, il ne pouvait pas bouger, il dit non, moi, je ne prends pas ça. Il y va avec sa fronde. Cinq pierres qui va polir, qui ramasse dans le torrent et sa fronde. Et aucune arme, aucune armure. Donc, et Goliath, est, quelque part, il dit, c'est quoi cette histoire-là hein? Et verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, ta lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Hé, il n'est pas conscient de lui, là, David. Il n'a pas d'armure, il n'a pas de protection, il n'a rien à démontrer. Lui, il a l'Éternel avec lui, c'est tout. Et nous, c'est ça. C'est au nom de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est avec moi. N'est-ce pas ? C'est ça, ma force. C'est ça, ma sécurité. C'est ça, mon assurance. Dieu s'est déclaré pour moi. Dieu est avec moi. Donc, la victoire. Et puis, lorsqu'ils reviennent de bataille, chaque fois, ils sont vainqueurs. Au verset 7 du chapitre 18, « Les femmes qui chantaient se répondaient l'une aux autres et disaient, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Aïe, 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 qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit, qu'est-ce qu'elles n'ont pas chanté. La réaction de Saül, qui est désécurisé, regardez bien, et ça c'est Dieu teste, d'accord ? Et ça continue. Et là, il échoue encore lamentablement. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on a donné à 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne que les 1000. Et quelqu'un qui a une autorité, un pasteur qui a une autorité, peut vite être désécurisé quand il y a quelqu'un qui est doué dans la parole hein, et dire « Ouais, mais lui, il est plus fort, lui, il a plus d'onction, lui, ceci, lui, cela. » On peut vite être en train de se comparer aussi si on vit comme le monde. Comprenez ? Et là, ça le met à plat complètement, Saül. Quoi ? Moi, on me donne qu'à 1000 à moi, alors que lui, on en donne 10 000. Mais c'est moi le roi ! Oh, oh, oh ! C'est moi le chef ! Il ne sait pas qui il est. Il n'a pas de sécurité. Il doit se défendre de sa position. Il doit défendre son royaume. Il doit défendre sa valeur. C'est ça le problème quand on n'est pas en sécurité avec Dieu. Quand tu es en sécurité, tu n'as pas besoin de te défendre. Tu laisses Dieu te défendre. Et qui mieux que Dieu fait justice ? Si c'est toi qui fais justice, ça pose... Et c'est ce qui va se passer. Il va dire, il ne lui manque plus que la royauté. Vous voyez le raisonnement ? Ça y est ? Moi, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de place, je vais être éjecté. C'est ce qui va se passer. Et donc, on va quand même abréger la suite, mais Saül va continuer de poursuivre David. Il va essayer de le tuer avec le javelot pendant qu'il joue la cithare. Donc, il a son javelot à plusieurs fois et David va échapper. Après, il va fomenter avec ses hommes un complot pour essayer de le tuer. Jonathan va sauver David. Après, il va fuir. Sa femme va le faire échapper. Et après, il va fuir. Pendant 15 ans, David va fuir devant Saül, qui va, à deux reprises, David va montrer qu'il aurait pu le tuer dans la caverne d'Adoulam. Et puis après, il va aller lui voler sa cruche et sa lance. D'accord ? Et alors que ses hommes lui disaient « Mais tue-le ! Règle le problème !» Mais pourquoi David ne l'a pas fait ? Parce qu'il savait. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui va le placer. Et ça a été une formation extraordinaire pour le roi David. La folie de Saül. Et ce qui est tragique avec Saül, c'est que il va se repentir deux fois en reconnaissant « C'est vrai, j'ai tort. » Alors il arrête de le poursuivre pendant un temps. Mais après, ça repart. Parce que quand tu n'es pas en sécurité avec Dieu, ben forcément, il faut que tu te justifies. Il faut que tu justifies ta place de roi, ton train de roi, ta vie de roi. Et donc, il va continuer de le poursuivre. Jusqu'à sa mort. Tragique. Hein, ou même à la fin de sa mort, il va aller voir une voyante pour savoir ce qui va se passer, alors qu'il avait éradiqué cette pratique que Dieu lui avait demandé de bannir du royaume d'Israël. Hein, il va faire appeler Samuel, qui était décédé. Et c'est Samuel qui lui manquait. La couverture de Dieu, la parole de Dieu, la vérité. Donc combien on a besoin de cette vérité, combien on a besoin de cette parole pour nous fortifier et pour nous rendre sécure, en sécurité, qui nous rendre tranquille. On n'a pas besoin de se défendre. Nous savons qui nous sommes. Nous savons qui est notre Dieu. Nous savons ce qu'il a fait. Nous savons que l'œuvre est accomplie. Nous savons que nos péchés sont effacés. Qu'est-ce que je fais ? On est arrivé au bout du temps. Un verset, psaume 32. Les psaumes, en majorité, c'est David qui les a écrits. Hein, et ça parle de ses émotions, ça parle de son expérience, ça parle de ses joies, ses peines, ses frustrations, ses inquiétudes, ses difficultés. Et on voit au travers de tous ces psaumes ben, que David, il avait une qualité. C'était se confier en Dieu. Se confier dans la grâce de Dieu, se reposer, même s'il était sous la loi, il avait une compréhension de la grâce de Dieu et de l'œuvre accomplie par révélation. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et verset 1 du chapitre 32 des Psaumes, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et ça, il avait compris ça. Et il vivait... Il a fait des erreurs, David. D'ailleurs, en réalité... Si on comparait humainement, rationnellement, la vie de Saül et David, on dirait que David il en a fait plus que Saül. D'accord ? David, il a fait quand même des grosses bêtises. D'accord ? Mais David, il avait un cœur pour se laisser corriger. Ça veut dire qu'on en fait des bêtises. Mais il savait qui il était. Il savait qui il était. Même s'il est émerveillé, et ça, c'est un peu plus loin dans le livre dans 2 Samuel... Lorsque Dieu fait une promesse à David et à sa descendance extraordinaire, une alliance, l'alliance davidique, où il va dire, parce qu'il voulait faire, il voulait construire le temple pour l'Éternel, et Dieu va lui dire, non, c'est pas toi qui vas le bâtir, ce sera ton fils. Et il dit, mais ma grâce ne se reversée qu'elle ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül. Que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Et on voit la différence. Saül ne consultait pas l'Éternel. David, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se présentait devant l'Éternel. Il avait la communion avec Dieu. Il dépendait de Dieu. Il était confiant en Dieu. Il se reposait dans sa royauté. Elle était affermie parce que c'est Dieu qui l'avait oint, c'est Dieu qui l'avait placé, c'est Dieu qui le gardait. D'ailleurs, lorsqu'il va devoir fuir devant son fils, il a dit, si l'Éternel veut me ramener, il me ramènera. Il n'a pas défendu, il ne s'est pas battu contre son fils, d'accord, contre Absalom. Mais voici ce qu'il dit. Qui suis-je ? Donc on est dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 18. Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? Et c'est ce qu'on a besoin, je conclurai avec ça ce soir, c'est ce dont on a besoin de se forcer. Qui sommes-nous pour que Christ ait fait ce qu'il a fait pour nous ? Qui sommes-nous pour avoir un tel Dieu, une telle alliance, une telle grâce, une telle sécurité, une telle assurance, un tel avenir, une telle gloire qui nous a été offerte ? Et il en a pris conscience là, David. Et si tu en prends conscience, ben tu deviens sécure dans cette nouvelle. Tu deviens fort dans cette nouvelle identité. Tu commences à en prendre possession, d'accord ? Ce qui va te rendre peut-être quelquefois ça va déranger certains. Quand David vient sur le champ de bataille apporter la nourriture à ses frères ne supportent pas. Ils le prennent pour un petit roquet là. Allez, tu es venu pour faire quoi ici là, hein ? Allez, retourne garder les peu de brebis là-bas de notre père. Et David, il sait ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il connaît son Dieu. Parce qu'il est à l'écoute de son Dieu. Parce qu'il marche par la foi. Parce qu'il croit son Dieu. Et si David a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il savait qu'il était en Christ. Et si David a porté les fruits qu'il a portés, et c'est parce qu'il savait qu'il... Alors, vous comprenez combien c'est important pour nous de savoir qui on est et de se reposer dans cette nouvelle identité, dans l'œuvre accomplie, dans la grâce de Dieu, au lieu d'essayer de se battre, à essayer de démontrer qu'on est, parce qu'à cause du péché qui est en nous, on pense qu'on n'est pas. Mais on est accepté dans le bien-aimé. Absolument, point barre. Et peu importe ce qui arrive, peu importe les échecs, peu importe les chutes, peu importe les critiques, nous sommes dans le bien-aimé. Hein ? Un Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son fils, du fils de son amour. Voilà, point barre, on y est. D'accord ? Maintenant, vivons-le, démontrons-le. On s'arrête là pour ce soir.